Radio Monaco.
Le club.
Thomas Brézeau, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Le 3 avril dernier, vous avez été élu président du Conseil national de Monaco. Les élus ont donc choisi de vous porter à la présidence et de ne pas reconduire Brigitte Bocconne-Pagès, qui affirme avoir fait l'objet d'un travail de sape et de division dès le début de son mandat de présidente. Comment vous réagissez à ces déclarations faites dans l'hémicycle ?
Je pense qu'elle considère qu'il y a eu un travail de sape à son encontre, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas du tout. Je pense que c'est elle-même qui s'est placée dans cette situation-là, compte tenu du mode de gouvernance de l'institution qui ne fonctionnait pas de manière optimale. Donc à partir de ce moment-là, il fallait prendre une décision. Il y a une concertation entre les élus qui s'est faite sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et bien au contraire, plutôt qu'un travail de sape, c'est une main que les élus lui ont tendue pour pouvoir justement l'aider à surpasser les problèmes que nous rencontrions au fur et à mesure. Mais toutes les discussions que nous avons eues sont restées lettres mortes et il y a eu... finalement, une décision radicale qui a dû être prise in fine et procéder à ce changement de présidence. Donc, travail de sape, en réalité, il faudrait avoir plus d'éléments factuels sur ce qu'elle considère comme des éléments de sape, mais à mon sens, ce n'est pas le cas.
Est-ce que vous comprenez que certains électeurs monégasques aient pu être déstabilisés par le fait que Brigitte Bocconne-Pagès, qui était tête de liste pour les élections l'an dernier, finalement, à peine un an plus tard, soit poussée vers la sortie de la présidence ?
Je peux le comprendre parce qu'effectivement, alors peut-être vu de l'extérieur, on a un bilan que je qualifie de positif, ce qui est le cas, puisque nous, chacun des élus, chacun de présidents de commission s'est investi dans les domaines qui étaient les leurs. Mais toujours est-il que ce sont les élus eux-mêmes qui ont travaillé et qui ont porté chacun les sujets qui leur étaient attribués. Donc effectivement, malgré un bilan positif, je peux comprendre que de l'extérieur, on puisse percevoir ça d'un mauvais œil. Mais en réalité, c'est qu'il y avait un réel problème de gouvernance au sein de l'institution, notamment dans le management des équipes permanentes.
Donc ce sont des problèmes internes uniquement ?
Des problèmes de gouvernance, oui.
Vous avez tenu à dire dans votre discours que vous étiez un ardent défenseur de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour la représentation dans les hautes fonctions de l'État. Vous pensez faire l'objet de critiques sur ce point ou vous anticipez des critiques à ce sujet ?
On a pu entendre effectivement quelques critiques sur ce point-là, mais c'est ce qui n'est pas du tout la réalité des choses. Il n'y a pas de misogynie de ma part, loin de là, loin s'en faut. Et ce sont d'ailleurs les conseillères nationales les plus ardentes et les plus investies dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes qui ont pris ma défense à ce sujet-là et qui ont effectivement rappelé à la présidente que ce n'était pas une question de sexe, mais bien une question de compétence. Donc.
Et est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une vice-présidence confiée à une conseillère nationale ? Pour avoir un binôme mixte ?
Ça aurait pu tout à fait, mais alors moi j'ai voulu m'inscrire dans la continuité du travail qui avait été fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai proposé à Jean-Louis Grinda de conserver son poste de vice-président.
Vous avez promis dans votre discours après votre élection au Conseil national de passer à un mode de fonctionnement plus ouvert, plus fluide, plus transparent, donc on s'attend à beaucoup de changements. Concrètement, comment vous allez vous y prendre ?
Alors, on a déjà commencé en interne avec une réorganisation, enfin une refonte du cabinet de la présidence, donc avec des changements à intervenir dès les prochains jours. Je suis en train de prendre connaissance des process qui avaient été mis en place depuis un an et demi, pour remettre tout à plat et avoir un mode de fonctionnement qui est plus fluide et beaucoup plus efficace pour essayer de faire accélérer les sujets le plus vite possible, toujours dans cette recherche d'efficacité et de célérité.
Pour essayer de comprendre pour le grand public, en fait, c'est qu'il y a la présidence avec le cabinet qui entoure la présidence, il y a aussi les employés permanents du Conseil national. Et puis, en plus de ça, le travail des élus, et c'est en fait dans la relation entre ces entités qu'il faut plus de fluidité ?
Exactement, notamment entre les élus et les permanents, ou entre les permanents et le cabinet, mais également entre le Conseil national et les autres institutions, et notamment le gouvernement, dans le travail de partenariat que nous devons mener au sens de la Constitution.
Thomas Brézeau, en tant que nouveau président du Conseil national de Monaco, est-ce que vous conservez les priorités qui ont été tracées pendant la première année de mandat de la majorité en place, c'est-à-dire logement, mobilité, finances publiques ?
Tout à fait, avec à mon sens un accent à mettre sur les finances publiques et notamment la recherche de nouvelles recettes, la diminution de certaines dépenses. Si on a un budget qui veut fonctionner, effectivement, il faut pouvoir l'alimenter. Donc c'est un point important à mettre en avant dans le cadre des prochaines échéances budgétaires, puisque une fois n'est pas coutume, nous aurons un budget rectificatif dès le printemps prochain, donc dès le mois de juin, nous allons avoir à nous prononcer sur les questions d'économie nationale. Donc.
Brigitte Bocconne-Pagès, quand elle était présidente, avait dessiné l'éventualité d'en faire un ultimatum, c'est-à-dire que si les réponses du gouvernement n'étaient pas à la hauteur sur la mobilité, par exemple, les élus pourraient ne pas voter le budget. Est-ce que vous maintenez, vous, cette vision des choses ?
C'est effectivement dans le rapport de la commission des finances et de l'économie où on avait évoqué différentes priorités et notamment une question sur la mobilité avec des réunions biannuelles qui devaient être mises en place. Ça, c'est déjà le cas. Il y avait la question du centre commercial de Carrefour, de Fontvieille. Et là, nous sommes en attente d'un nouveau projet, de nouvelles perspectives quant à l'évolution du centre commercial national qui devient de plus en plus nécessaire, qui contribuera aussi aux recettes de la principauté, et ça c'est important dans le cadre de ce que je viens d'évoquer concernant les finances publiques. Il y a également aussi le plan triennal d'équipement public qui n'était pas conforme à la loi sur les lois de budget. Là, c'est un point important sur ce prochain budget rectificatif où on veut avoir un budget national qui fait part de l'ensemble des dépenses et des recettes qui doivent être inscrites au budget pour qu'on ait un budget le plus clair possible et le plus fidèle à la réalité des choses.
Et si jamais c'est pas satisfaisant, qu'est-ce qui se passera pour le vote du budget ?
J'inviterai mes collègues en tout cas à ne pas voter le budget si tous ces points-là ne sont pas conformes à nos attentes, notamment sur le plan triennal d'équipement qui est une question de respect des lois.
De façon générale, comment vous appréhendez les relations entre le Conseil national et le gouvernement princier ? L'an dernier, on a eu plusieurs épisodes de tension. Mmh. On est dans une période d'apaisement. Est-ce qu'on va y rester ? Est-ce qu'il faut muscler le jeu si nécessaire ?
On a eu une réunion avec le ministre d'État et j'évoquais la situation en disant finalement, on est comme un vieux couple. On vit ensemble, on n'est souvent pas d'accord, mais au final, on n'a pas le choix que de s'entendre. On est deux partenaires, on vit au jour le jour côte à côte et le sens des institutions fait que nous avons l'obligation de trouver un consensus pour prendre les décisions. Donc on a tout intérêt à le faire de manière apaisée, dans la bonne entente, la bonne humeur, mais avec la fermeté nécessaire sur les sujets qui intéressent l'ensemble de la communauté monégasque.
L'attractivité de la principauté, c'est aussi un des dossiers prioritaires. On attend d'ici le mois de mai ou juin l'issue du processus avec le GAFI pour savoir si Monaco va oui ou non être inscrite sur liste grise. En tant que président de la commission législation, vous avez chapeauté le travail des élus, en tout cas pour voter 4 texte de loi majeur pour renforcer l'arsenal juridique de Monaco contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Aujourd'hui, ce travail législatif est bouclé. Il n'y a rien à faire si ce n'est attendre.
Non, je pense pas. En réalité, il y avait déjà 5 textes qui avaient été votés au mois de novembre 2022. Depuis le dépôt du pré-rapport, en tout cas Moneval, en octobre 2022, on en est à 9 textes qui ont été votés. Ces textes-là ont vocation, non pas à mettre à jour la législation et en conformité avec les directives européennes, puisque c'était déjà le cas et c'est ce qui avait été relevé dans le cadre du rapport Moneval. L'important, c'était de pouvoir doter le gouvernement de lois permettant une meilleure efficacité de la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment. Parce qu'on va être jugé sur deux choses. La partie légistique, celle-ci était conforme si ce n'est quelques ajustements qui ont pu être opérés dans l'intervalle, et notamment la création de l'Agence monégasque de sécurité financière. Et il y a le deuxième volet qui est tout aussi important, c'est l'effectivité. Et c'est sur cette effectivité-là que le gouvernement donc, va être jugé. Donc, on espère que tous les travaux-là qu'on a fait au cours des derniers mois permettront au gouvernement d'atteindre le niveau qui est requis par le GAFI pour éviter d'un placement sur liste grise. Quoi qu'il en soit, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Hein. On perd d'attractivité pour notamment les affaires en Principauté de Monaco, quelques difficultés pour les professionnels, mais aussi les particuliers auxquels on peut s'attendre. Mais on poursuivra le travail pour pouvoir, si on devait être placé sur liste grise,
pour en sortir.
En sortir le plus rapidement possible. Et si nous ne sommes pas placés sur liste grise, c'est un travail continu qui devra se faire dans les mois et les années à venir pour ne pas se retrouver dans ce même genre de situation quand un nouveau cycle d'évaluation Moneval interviendra d'ici 4 à 5 ans, par exemple.
Est-ce que les conseillers nationaux sont confiants sur cette réponse du GAFI ?
Pas tellement. Une réalité. Hein. Il faut, nous, on a voté les textes, mais derrière la durée de mise en œuvre de ces textes-là, la durée de publication des textes réglementaires. Hein. Au mois de novembre 2022, on avait créé l'agence de gestion des avoirs et saisies du crime. Cette agence n'a toujours pas été mise en place.
Donc il y a des choses qui prennent du temps et qui risquent de peser sur la décision du GAFI.
Tout à fait. Et la Principauté de Monaco qui risque d'être pénalisée à ce titre-là, notamment sur l'effectivité.
Donc on se prépare psychologiquement à un éventuel placement sur liste grise.
Tout à fait, psychologiquement, mais également matériellement, puisqu'il va falloir prendre certaines mesures. Et donc effectivement, on essaye de se mettre en ordre de marche déjà en amont pour pouvoir anticiper les travaux à venir pour le futur, notamment avec des recrutements de juristes, parce qu'on sait qu'on va avoir une recrudescence de textes qui va arriver. Donc c'est important que le Conseil national soit prêt à répondre à ces objectifs-là pour qu'on puisse sortir le plus rapidement possible de la liste grise.
On aura la réponse a priori d'ici cet été, hein, c'est ça ?
Normalement, au mois de juin, avec une réponse finale, je crois, en fin d'année.
Dans un an, lorsque le bureau du Conseil national sera de nouveau amené à être renouvelé, quel bilan est-ce que vous souhaitez présenter pour légitimer une nouvelle candidature ?
Un bilan positif, bien évidemment, avec un nombre de textes importants qui auront été votés. Ça, comme je l'ai évoqué lors de la séance publique de renouvellement du bureau, on a eu plusieurs retraits de textes qui ont été opérés par le gouvernement et des textes d'importance, notamment sur la refonte du droit des sociétés. Il y a une réflexion en cours sur un éventuel retrait de texte sur la protection des données personnelles. Il y a un texte également sur la refonte des lois de budget et la clôture budgétaire qui a été retirée par le gouvernement. Ce sont des textes qui étaient à l'origine issus de propositions de loi du Conseil national. Donc si on nous retire l'ensemble des textes d'importance pour l'Assemblée, je vois pas quel peut être le bilan dans un an. Donc effectivement, il y a un travail à effectuer en partenariat avec le gouvernement, mais pour exiger que nous puissions voter des textes d'importance pour la Principauté de Monaco et pour le futur. Et après, il y a le volet également budgétaire sur lequel j'espère que nous pourrons parvenir à cet objectif de rééquilibrer les comptes dans une période actuelle qui est difficile. On ne peut pas se le cacher, notamment en relançant les opérations immobilières en Principauté de Monaco et qui sont génératrices de TVA immobilière et de recettes également pour la Principauté. Et ça, c'est important. Si on veut pouvoir alimenter le budget, il faut faire entrer des ressources, des fonds.
Ça veut dire aussi des nuisances quasi permanentes.
À charge aussi de trouver des solutions pour éviter ces nuisances. Après, sur un territoire de 2 km², malheureusement, on ne peut pas les éviter non plus. Il y a un équilibre à trouver, par contre, dans tous ces domaines-là, que ce soit en termes de mobilité, en termes de travaux, en termes de circulation et autres, qui est essentiel pour qu'on puisse bien vivre en Principauté de Monaco. Mais il faut concilier tous ces objectifs-là. Alors, on ne peut pas avoir tous les avantages sans avoir les inconvénients, ça c'est une certitude.
Thomas Brézeau, est-ce qu'en tant que président du Conseil national, il y a des réformes que vous souhaiteriez impulser en Principauté ? Je pense à des questions de société, notamment...
Sur l'IVG.
Par exemple, oui, l'IVG.
Il y a déjà une évolution qui a été opérée lors de la précédente mandature avec la dépénalisation de l'IVG. Mais aujourd'hui, c'est des questions de société auxquelles on ne peut pas échapper. C'est une certitude. Je ne peux pas penser qu'on puisse être hypocrite à ce point en acceptant qu'il y ait des avortements qui soient opérés à quelques centaines de mètres de chez nous et que ça soit interdit en Principauté de Monaco. Donc la question doit se poser. Et c'est le sens du Conseil national. Si les questions de société ne sont pas posées au sein de l'Assemblée, où est-ce qu'elles le seront ? Donc le débat aura lieu. Pourquoi pas procéder à un dépôt de loi, à charge pour le gouvernement de prendre ses responsabilité et de prendre la décision de convertir ou non ce projet de loi.
Thomas Brézeau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du Conseil national à Monaco et on aura certainement l'occasion de vous recevoir à nouveau. Merci.
Volontiers, merci à vous.